Dans l'actualité des idées aujourd'hui, peut-on encore créer sans offenser? Quelle sensibilité l'art se doit-il de ne pas froisser? On en parle avec notre invitée Isabelle Barberis, maître de conférence à l'université Paris Diderot, spécialiste du théâtre contemporain, auteur de l'art du politiquement correct, une critique du monde culturel, fabrique du symbolique, infiltrée par la morale, affaiblie par le politiquement correct selon elle, un essai qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Bonjour Isabelle Barberis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Mais d'abord, avant d'entrer juste dans le vif de votre réflexion sur l'art, une voix qui s'est éteinte hier, un timbre.
C'est pas une vocation, ça s'est trouvé tout à fait par hasard quand j'étais au lycée de Dijon avec mon professeur de lettres, monsieur Jacques. J'ai toujours raconté ça, il y avait les taupins et les cagneux. Les cagneux, ils étaient crasseux, ils fumaient en études, les taupins, ils avaient des calots. Et j'avais à mon prof de lettres, monsieur Jacques, j'ai envie de faire caille. Il m'avait dit non. Je pense que il avait déjà monté l'ours de Tchekhov à un exercice d'élèves. Il m'avait dit si j'étais vous, je tenterais peut-être ma chance au théâtre. Je me présenterais au conservatoire. Je rentre à Paris, je me présente au conservatoire, je suis pris élève, je suis pris comme stagiaire à la Comédie Française. Mon père a dit c'est vraiment un métier d'une facilité incroyable. Voilà comment ça a démarré. Non. Quand on va au théâtre, eh bien, je sais pas, c'est toujours une émotion parce que quand on est jeune comédien et qu'on joue pour la première fois, qu'on se retrouve sur un plateau, et c'est très, très bizarre, ça vous poursuit après longtemps. Moi, j'ai le souvenir lointain de ça, mais je sais que c'est encore une émotion très présente en moi. Voyez. D'entendre le rideau se lève, il y a un murmure, on se sent vaguement du monde comme ça, puis on se lance, on plonge.
Voilà, une carrière commencée au Conservatoire de Paris, au théâtre, sur les planches, avant de passer dans l'écran la voix de Jean-Pierre Mariel qui nous a quittés hier à l'âge de 87 ans. 60 ans de cinéma et de théâtre, il s'était lié d'amitié notamment avec Jean-Paul Belmondo et Jean Rochefort. C'est une génération d'acteurs qu'il incarne avec cette voix si particulière. Vous l'aviez vu, vous, au théâtre, Isabelle Barberis, Jean-Pierre Mariel?
Je n'ai jamais vu Jean-Pierre Mariel sur les planches, mais bien entendu, je l'ai vu dans de nombreux films, notamment dans Calmos,
notamment.
Film non politiquement correct.
Eh ben, on va en écouter un extrait. Il a beaucoup joué avec Blier, il a beaucoup joué avec Sauté, avec Audiard, Bertrand Tavernier, Patrice Lecomte, on peut citer aussi Alain Corneau. En 76, effectivement, Bertrand Blier lui offre le rôle principal dans Calmos, qu'il tourne juste après Les Valseuses. C'est l'histoire de Paul Dufour, gynécologue de son état, assez épuisé par la vie et les femmes, qui, sur un coup de tête, décide de tout abandonner, son travail, sa maison, son foyer, pour se réfugier à la campagne, en compagnie d'Albert, incarné par Jean Rochefort, croisé à Paris.
Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert?
Ça ne me regarde pas, monsieur.
Bah alors, m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande.
Oh, il est très aimable.
En quel honneur?
Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte.
De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix, maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs.
Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de Gustave Flaubert, il n'y a plus rien.
Vous voyez pas que c'est un homme fatigué, à deux doigts du break? Vous cherchez un incident ou quoi?
Ça alors?
Vous trouvez pas qu'elles auraient tendance à nous faire chier?
Oh.
Toutes? Vous êtes du quartier?
Non, de Montrouge.
Et elles sont comment à Montrouge?
Oh.
Va arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là,
à force de jouer avec nos nerfs, fragiles les nerfs.
Et on en a beaucoup. Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule.
Elles auront que ce qu'elles ont cherché.
Moi, c'est pas compliqué, j'étouffe, je suis asphyxié.
Forcément, ils nous pompent tout.
Ça va pas durer comme ça, moi je vous le dis, faut que ça craque.
Et qu'à faire la valise, point final.
Il nous faut faire tout vite. Un bon coup de pied dans le cul. J'ai besoin que tu t'agites jusqu'à ce que je n'en puisse plus.
Mon gueule!
Ce qu'il nous faut, c'est un coup de bite. Un bon coup de pied dans le cul. J'ai besoin que tu t'agites jusqu'à ce que je
Alors, à sa sortie en 1976, le film va d'abord être interdit aux moins de 18 ans. Calmos de Bertrand Blier, tout comme l'avaient été d'ailleurs ses valseuses. Les critiques vont se montrer très dures avec le film, dans la presse de gauche, avec La Voix, notamment des associations féministes. On va l'accuser d'être une sorte de brûlot misogyne qui donne une mauvaise image donc des femmes. Et la presse de droite, elle, va plutôt dénoncer un film pornographique. Et ce sera un bide commercial. Mais avec les années, le film a quand même trouvé son public et sa réputation, plutôt culte hein, aujourd'hui. Certains ont voulu voir là une critique plutôt visionnaire d'une libération de la femme, pensée sous le prisme aussi de la sexualité. Qu'est-ce que vous en dites-vous, Isabelle Barberis? Est-ce que ça ne nous dit pas que dans les années 70 déjà, il y avait des objets culturels qui pouvaient choquer et qui pour autant ont trouvé leur place dans l'histoire?
Oui, alors je pense que ces scandales à partir de films, d'œuvres dérangeantes ne datent absolument pas d'aujourd'hui. La différence que je vois avec aujourd'hui, c'est que l'objet de ce qui fait scandale a profondément changé, puisque ici la nature délibérément rentre dedans, offensante du film de Blier est parfaitement assumée quoi. Aujourd'hui, ce qui fait scandale, si l'on reprend par exemple l'exemple très récent que tout le monde a en tête des suppliantes, c'est d'une toute autre nature. Au contraire, ce qui va faire scandale dans le cas d'Exhibit B, cette pièce...
Alors pardon, parce que comme tout le monde l'a peut-être pas en tête, on va quand même, quand on cite des exemples, essayer de raconter les suppliantes d'Eschyle, mise en scène par Philippe Brunet, dont l'une des représentations en mars dernier a été empêchée par un groupe de militants antiracistes qui reprochaient au metteur en scène d'avoir couvert le visage de certains comédiens de masque noir.
De masque noir. Et également de maquillage noir. C'est un petit peu ambigu. Il y a les deux accusations.
D'avoir grimé, en fait.
De les avoir grimés. Donc, dans le cadre de cette pièce, des suppliantes, ou alors, dans le cadre aussi de la pièce mise en scène par Robert Lepage, Kanata, ou si l'on remonte un tout petit peu plus loin dans le temps, il y a 5 ans de cela avec Exhibit B, du sud-africain Brett Bailey. Ce sont des pièces absolument politiquement correct, précisément, qui ont suscité le scandale. C'est-à-dire, on est face à une sorte de surenchère de déclarations morales, de bonnes intentions, qui entraîne une sorte de cycle d'indignation complètement, à mon sens, absolument absurde. Puisque ce soit dans le cas de Robert Lepage, de Brett Bailey ou bien de Philippe Brunet, ils se sont tous ouverts sur leurs intentions explicitement, et je dirais même de manière assez soulignée, hein, dans leur mise en scène, dans la stylisation de leurs propos antiracistes. Hein. Donc, on est à l'inverse, en quelque sorte, du scénario du scandale de Calmos, puisque on avait affaire à un discours qui se voulait délibérément dérangeant et qui voulait déplacer les lignes. Ici, on a affaire à des œuvres qui veulent être dans les clous, mais qui sont jugées par certains insuffisamment dans les clous.
Mais que l'art choque, que l'art dérange des sensibilités, ça, ce n'est pas nouveau. Si on repart de l'exemple de Calmos, hein.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue alors? Ce sont les points de friction, ces sujets qui peuvent être différemment sensibles d'une époque à l'autre?
Alors, je pense que effectivement, les sensibilités évoluent. L'un des auteurs auxquels je me réfère dans mon ouvrage, c'est Norbert Elias, le sociologue, qui intègre dans sa sociologie toute une dimension psychologique et qui montre effectivement comment le processus de civilisation, qu'on peut aussi appeler la pudeur, avance par une sorte de d'intériorisation des contraintes, de plus en plus forte. Ce que montre Elias aussi, c'est que cette extrême intériorisation des contraintes produit à un moment donné la décrépitude et le délitement du processus de civilisation. Donc oui, pour répondre à votre question, la sensibilité effectivement évolue. Il y a aussi aujourd'hui des choses qui sont jugées offensantes et insupportables. Alors après, on peut aussi s'arrêter sur le sens de ce mot qui revient en permanence, qui est celui d'offenser. voilà, de l'offense.
Que vous définissez comment, vous ?
Eh bien, c'est un mot qui appartient au cadre légal que l'on retrouve dans les lois de lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Et c'est un mot en fait dont le seul cadre de référence est, ou en tout cas, c'est un de ces écueils, un de ces glissements possibles. C'est le ressenti de l'offensé et la manière dont l'offensé va s'auto-qualifier en tant qu'offensé. Puisque un des processus que j'essaie d'analyser dans mon livre, c'est cette espèce de cloisonnement progressif des regards où chacun s'auto-qualifie par son identité, par son sexe, par sa sexualité, ce qui est encore différent, par son genre, par son ethnie, par sa nationalité. Et ne supporte plus le regard extérieur sur tous ces critères. Le regard extérieur lui-même étant censé devenir un mauvais œil, en quelque sorte, comme au Moyen-Âge, véritablement, qu'il devient inconcevable d'intégrer dans sa sphère privée. Et on aboutit à une privatisation des représentations, qui est tout à fait conforme au cadre néolibéral, et que j'appelle aussi une sorte de droit à l'image, devenu fou.
Est-ce que vous, dans toutes vos identités, rien n'est susceptible de vous offenser ?
Je suis... Je peux effectivement m'offenser de certaines choses, peut-être même un nombre assez important de choses, mais ça ne sera, à mon sens, pas un critère... pour faire taire l'autre, de censure ou d'exclusion de cette parole qui, sur le moment, va me sembler insupportable.
Alors ça, c'est les nouvelles formes de politiquement correct qui vous alertent, qui vous alarment aujourd'hui et sur lesquelles on va pouvoir revenir avec quelques exemples. Mais vous évoquez aussi ce nouvel académisme anticulturel. Qu'est-ce que vous appelez cet académisme anticulturel ? C'est la manière dont l'institution récupère aussi ces mouvements d'humeur, ces contestations ?
Alors oui, c'est en partie cela. Ce que j'essaye de nommer par académisme anticulturel, bon, c'est un terme que je reprends au situationnisme, c'est plus globalement un processus de destruction de la mimésis et de désublimation. C'est-à-dire que ce que j'ai observé dans la fréquentation, l'étude aussi, l'analyse des œuvres d'art, c'est qu'il y a de moins en moins de place pour la transformation, pour l'ailleurs, voilà, il y a de moins en moins de place pour cela, de moins en moins de place pour la représentation. Ça va concerner par exemple les revendications identitaires qui font fleurir aujourd'hui les polémiques dans les médias, donc sur comment représenter telle identité, avec toutes ces déclinaisons possibles. Mais ça concerne aussi des œuvres qui n'ont rien à voir avec ce champ, on va dire, identitaire, et qui s'apparentent de plus en plus à une reproduction absolument, quasiment préenregistrée du réel, que ce soit avec la présence d'amateurs sur scène, avec des esthétiques documentaires, qui se prétendent documentaires mais qui ne le sont pas, on va dire au sens brechtien, qui ne provoquent pas d'esprit critique. Donc c'est ce processus de destruction de la mimésis.
Et donc les institutions se transformeraient en des chambres d'incubation, mais aussi entreraient dans ce processus pour vous de validation de ce qui est à montrer ou à ne pas montrer, et parfois pas vraiment consciemment aussi.
Et alors parfois pas consciemment, en fait, me semble-t-il, ce que font les institutions, c'est ça qui est très paradoxal, mais qui explique ces nouveaux mécanismes de censure, aujourd'hui c'est qu'elles ne font rien. Voilà. Elles ne font rien. Les politiques culturelles que l'on a appelées de la diversité qui sont mises en place depuis 2015, bon, la diversité c'est un terme auquel, c'est un signifiant vide, c'est tout. Absolument tout, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est un signifiant qui a glissé, bon, vers une acception ethno-différentialiste. Ça c'est un autre problème. Mais du point de vue des institutions, ça peut absolument être tout et n'importe quoi. Donc c'est une démission véritable des institutions en matière de politique culturelle qui laisse place ces mécanismes de pression ou alors à cette espèce de reproduction du réel sans travail de transformation qui est en fait extrêmement conservateur à mes yeux.
On pourra dire aussi que l'art était déjà ethno-différentialiste d'une certaine manière, et c'est à cette injustice, à ces inégalités par exemple, qu'une exposition comme le modèle noir qui a eu lieu récemment au musée d'Orsay entendait répondre, c'est-à-dire rendre visible l'invisible.
Alors, je suis entièrement d'accord avec vraiment avec cette idée. Et je tiens à dire que bon, si jamais quiconque pense que je ne suis pas, c'est simplement un malentendu. Par contre, ce qui peut se produire lorsque l'on racialise à l'extrême la représentation, j'ai vu cette exposition d'ailleurs que j'ai trouvée très fine, très subtile. Bien que, à mon sens, elle aurait dû commencer avant la Révolution française, parce qu'il y a d'autres phénomènes picturaux qui auraient pu entrer en jeu. C'est la racialisation extrême des représentations produit finalement un retour des représentations racistes. C'est bien cela qui m'inquiète. Là, aujourd'hui, le retour de la figure du bon sauvage, par exemple. Que cette exposition que vous avez citée, encore une fois, est véritablement... c'est très difficile de ne pas reproduire ce que l'on s'acharne à critiquer.
Où est-ce qu'elle fait son retour, par exemple, cette représentation que vous appelez du bon sauvage?
Elle va faire son retour dans un grand nombre d'œuvres. Alors après, je peux les citer, mais par exemple, l'espèce de manie de distribuer des noirs dans des rôles qui sont valorisants, par exemple, ou chez certains auteurs, de leur donner le bon rôle. Et donc, en fait, en quelque sorte, de leur ôter aussi, d'ôter à leur personnage la question universaliste de la responsabilité. Ça, c'est assez fréquent dans le cadre des représentations que j'appelle racialisées. La victime, en général, est racialisée, d'une certaine manière.
On va prendre un exemple pratique pour essayer de comprendre avec l'une des dernières controverses, Blackface, comme on dit. Début avril, une pétition intitulée « Le racisme n'a pas sa place sur les murs de l'Assemblée nationale » est lancée. Ses signataires demandent le retrait d'un tableau d'Hervé Di Rosa, accroché sur les murs de l'Assemblée nationale depuis 91. C'est une pièce d'une série sur les grandes lois françaises. Et ce tableau illustre, lui, l'abolition de l'esclavage en France en 1794 à la manière de l'artiste de cette deux visage noir, grande bouche, grosses lèvres, une imagerie hésitant entre Banania et Tintin au Congo pour les initiateurs d'un appel qui demande le retrait de cette œuvre et qui condamne une esthétique pop déréalisante, une vision rance et humiliante. Je vous propose d'écouter à ce sujet les mots de la journaliste et militante antiraciste et féministe Rokhaya Diallo. Elle était l'invitée en avril dernier des Matins de France Culture.
On vit dans une société qui est structurellement raciste du fait de son histoire, de la même manière qu'elle est sexiste et qu'elle a un fond homophobe extrêmement puissant. Donc à partir du moment où on est culturellement exposé à ce contexte de manière quotidienne, on peut le reproduire de manière inconsciente, et ça, quelles que soient nos intentions initiales. Ce qui est important, c'est pas l'intention, mais c'est l'effet qu'elle produit. Cette fresque se trouve à proximité d'une salle de projection dans laquelle des groupes scolaires se rendent. Il y a des enfants qui sont notamment noirs, qui peuvent se retrouver face à cette œuvre qui prétend, pour certains dont qui sont descendants d'esclavage, célébrer l'émancipation de leurs ancêtres, et se sentir humilié. C'est ce qui a initié le début de la pétition. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de traquer le racisme inconscient, mais de simplement noter les effets que ce racisme peut avoir sur des jeunes personnes, ou c'est des personnes qui s'identifient aux représentations qui sont caricaturales. Si on blesse une personne accidentellement, notre intention n'est pas de la blesser, mais les faits sont là, et on ne peut pas dire à la personne « je ne vais rien faire parce que je n'avais pas l'intention de te blesser », c'est la même chose. Et je crois qu'on sait qu'il y a des codes qui sont des codes picturaux, qui sont des codes qui sont racistes. Par exemple, le grand nez, les doigts crochus, l'argent, ce sont des codes qui sont antisémites. Si un artiste décidait de faire œuvre de représentation de personnes juives, et qu'il avait ces habitudes-là en termes de représentation et que cette représentation était associée à des personnes juives, il aurait beau dire que c'est son style habituel, on comprendrait bien que c'est problématique parce qu'aujourd'hui en France, cette représentation-là est une représentation antisémite. C'est la même chose pour les représentations qui sont négrophobes, comme c'est le cas de cette représentation avec ses grosses lèvres et ses gros yeux.
Voilà, ça c'est un exemple qui illustre bien ce que vous vous expliquez en vous positionnant dans ce clivage autour de la représentation qui oppose d'un côté le droit à représenter librement, celui de l'artiste, et puis pour le regardeur, celui de percevoir d'une autre manière aussi certaines représentations, le droit à être ou à ne pas être représenté. Isabelle Barberis.
Oui, alors pour répondre un petit peu aux arguments de Rokhaya Diallo que je viens d'entendre,
que vous comprenez, qu'elle puisse, comme un certain nombre de personnes, être choquées par cette œuvre.
Il y a, alors il y a quantité de choses que je peux tout à fait entendre. Moi, souvent, ce qui me pose problème, c'est les conclusions, les conséquences qui en découlent. Il y a plusieurs choses qui me semble pouvoir être relevé. Déjà, c'est un argument que j'entends souvent, que ce soit chez Madame Diallo, chez Louis-Georges Tain, c'est-à-dire la comparaison avec les caricatures antisémites. Si l'on prend par exemple le cas des suppliantes, il n'y avait absolument rien d'offensant dans tout simplement le fait de peindre en noir, c'est purement référentiel, la peau. Donc comparer le fait de se peindre en noir avec des nécrochus me semble relever, en tout cas poser de multiples problèmes.
Là, vous êtes reparti du côté d'Achille, alors, mais pour rester sur cette représentation
Jean,
d'artiste Hervé Di Rosa.
J'en viens à Di Rosa. Ce qui me met mal à l'aise avec la question de Di Rosa, c'est qu'il ne faudrait pas, pour contredire certains excès des revendications identitaires et un phénomène que Bourdieu a bien qualifié, qui est celui d'hystérésie, c'est-à-dire à un moment donné, les revendications décrochent complètement par rapport au cadre réel d'analyse. Il ne faudrait pas pour autant dire que cette fresque est absolument extraordinaire, formidable, etc. C'est précisément ce type de dualisme, me semble-t-il, qui est néfaste. Hein. De la même manière que ce n'est pas parce qu'on critique certaines tentatives d'intimidation suite à Kanata, suite à Exhibit B, suite aux suppliantes, que l'on doit ovationner ces démarches artistiques, dont précisément pour moi le défaut et d'avoir un caractère moralisateur. À partir du moment où l'art entre dans un discours moral, il réveille des susceptibilités et il réveille des démarches de plus en plus inquisitoriales. Parce que Madame Diallo a beau dire non, ce que l'on critique, ce n'est pas le racisme inconscient. Je suis désolée, mais dans toute la panoplie rhétorique, toute la phraséologie de cette idéologie, on est tout le temps sur le racisme, le déni, la question du déni que je trouve absolument... Comment fait-on pour discuter à partir du moment où on accuse l'autre d'être dans le déni? On ne peut tout simplement plus débattre. Le racisme par omission, le racisme inconscient. Donc ce sont bien des procès qui ont quand même une nature inquisitoriale.
Avec l'idée de quand même d'œuvres qui travaillent sur de vieux préjugés, un peu rance, comme disaient les auteurs de cette tribune, oui. Mam Fatoun Yang et Julien Suodo, dans l'Obs, vous direz qu'ils enseignent aux États-Unis et qu'on a aussi peut-être là l'exportation de certaines controverses américaines ou d'un regard américain sur ce qu'est le politiquement correct, mais aussi de l'exposition de ces représentations dans un lieu comme l'Assemblée nationale, en fait.
Oui. En fait, me semble-t-il, on peut à la fois critiquer la fresque de Di Rosa et puis la réaction qui vient de la part de Rokhaya Diallo ou du CRAN, puisque la fresque de Di Rosa, alors elle répondait à une période très caractéristique des politiques culturelles qui prônaient effectivement une forme, alors pour le coup, de racialisation des représentations, qui a aussi induit cette espèce de retour de la figure du bon sauvage. C'est l'époque qui fait suite à
qui s'inscrit dans la lignée des impulsions données par Jack Lang. Donc moi je suis assez d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui pose problème dans cette œuvre, mais ce qui pose problème, je ne l'analyse pas de la même manière.
Alors voilà. C'est comme ça que s'en défend aussi Hervé Di Rosa, qu'on va pas non plus acculer dans cette discussion, d'avoir voulu travailler à partir de ses représentations, et il disait en réponse à ses accusations dans une tribune du Monde, quand ma série porteuse de toute une culture populaire énervait les gens de droite à l'époque, c'était presque de bonne guerre. Là, ça me désole que ça vienne de gens que je considère de mon côté. Toute ma vie d'artiste, je me suis battue contre les censeurs du bon goût pour faire exister des formes grotesques issues de l'imagerie populaire et modeste de mon côté, c'est-à-dire du bon côté, voilà, tel que lui le percevait. Vous déplorez aussi dans cet ouvrage une nouvelle conception de l'auteur et une judiciarisation du débat qui nous mènerait à la disparition du contenu objectif de l'œuvre au profit de buzz médiatique interminable et prévisible sur les caractères ethniques, pigmentaires, sexuels de l'auteur ou des interprètes, je vous cite. Pour revenir sur ce point-là, est-ce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que l'art entre de plein pied dans les débats de société et les débats politiques du moment? Est-ce que le champ culturel, pour vous, doit rester un monde à part, hermétique, tenu éloigné des tendances qui agitent l'époque?
Alors... de toute façon, c'est aussi une des choses que je dis dans ce livre, c'est-à-dire cette période est révolue, la période où l'art se situait dans une zone complètement extraterritoriale par rapport à la société. C'est une des raisons pour lesquelles je m'attarde assez longuement sur Adorno et je cite Orwell qui disent tout simplement bon voilà, l'art fait partie est politique dans le sens où il fait partie de la société. Mais ce que j'observe dans ces nouveaux mécanismes, c'est que l'artiste continue à revendiquer une forme d'extraterritorialité. Par exemple, j'en prends pour exemple la ligne, on va dire, idéologique de l'Observatoire de la liberté de création, qui continue à défendre des propos assez extrémistes, que ce soit de rappeurs ou au titre effectivement de cet absolu ultra-libéral de la liberté de création. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire que l'art ne se situe pas dans une extraterritorialité absolue par rapport au champ social.
Et c'est pas nouveau, parce qu'il y a 10 ans déjà, dans Théâtre contemporain, mythes et réalités, vous mettiez, vous, en garde contre ce renouveau d'un théâtre identitaire, contre ces démarches moralisatrices. Est-ce que le spectacle vivant doit réellement être tenu à l'abri de ce que vous appelez des idéologies, des pensées, des courants, ou est-ce qu'il faut les laisser traverser la scène? C'est-à-dire à la fois les idées que vous défendez, et celles que d'autres peuvent aujourd'hui porter, comme le mouvement Décoloniser les arts. Oui. Est-ce que l'art ne doit pas justement se situer au milieu de tous ces débats pour vivre et exister et se renouveler?
Il le fait, mais aujourd'hui, il est devenu une sorte de relais, de phénomène d'écho et de répétition de tout ce que l'on entend déjà. C'est cet effet de répétition, d'amplification de ce qui est déjà là, de ce qui est déjà dit, qui me semble cette platitude, cette unidimensionnalité qui me semble assez morbide, assez attristante, notamment, et là on quitte complètement le champ de décoloniser les arts, parce qu'encore une fois, voilà, il ne faudrait pas penser que ce sont pour moi, voilà, que ces artistes sont des cibles particulières. Mon propos est beaucoup plus large. Moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est l'omniprésence. Quand je dis omniprésence, c'est qu'il n'y a quasiment plus d'autre espace des phénomènes de dénonciation dans les arts. C'est-à-dire, il n'y a plus d'œuvres qui ne dénoncent pas. Alors, on peut aussi analyser ça comme un phénomène d'entre-soi, hein, et d'embourgeoisement des arts. Mais ces effets de dénonciation, bon, moi, je pars un petit peu du principe que l'inconscient ne connaît pas la négation, et que à partir du moment où l'on est environné en permanence de discours de dénonciation, il n'y a plus que cela. On forme des esprits, alors non seulement acrimonieux, mais aussi délateurs, de dénonciateurs.
quand on se réfère à quand même à d'autres périodes, en ce moment je travaille beaucoup sur l'absurde, sur la dérision, parce qu'à mon sens, ça serait un retour assez nécessaire au doute, au paradoxe, à l'exacerbation au non-dualisme. Il me semble que ce discours de dénonciation absorbe tout.
Alors, esprit de dérision et de satire que vous avez mis en œuvre sur un compte Facebook l'an passé, qui s'appelait David Bobo, et qui n'a pas vraiment été perçu comme cela, mais plutôt comme des attaques que vous auriez menées derrière pseudo contre le metteur en scène David Bobet. Pourquoi en fait toutes ces actions? Qu'est-ce que vous cherchez à montrer ou à vous-même dénoncer finalement à votre tour dans ce tout dénonciation?
Alors, pour puisque vous m'amenez sur cet incident-là, ce que je peux en dire déjà, c'est que cet incident s'est produit. Il n'y a pas de caractère insultant dans cette page. Il peut y avoir un caractère perçu comme offensant, mais à proprement parler, il n'y a pas d'insulte. Des insultes, par contre, j'en recevais depuis un certain temps. Bon, vous n'y aurez pas apparemment, puisque vous avez ouvert ce dossier-là, qu'il y a un procès, donc ça sera une plainte en tout cas qui va donner lieu à un procès, donc ça sera des choses qui seront mises en justice.
Voilà. Oui, mais juste pour revenir sur l'atmosphère de l'époque, en fait, de ce moment que nous sommes en train de vivre, par rapport à ce que vous expliquez sur le politiquement dans l'art ou cet art du politiquement correct, est-ce qu'il n'est pas travaillé de tous les côtés aussi?
J'essaye, j'aime beaucoup le dernier livre de Maxime Rover, « Que faire des cons ?» avec le sous-titre qui est très important et « Comment ne pas en devenir un soi-même ». Voilà. J'essaye de ne pas en devenir un. Parce qu'effectivement, il y a très clairement des choses qui m'inquiètent et que j'essaye d'analyser. Effectivement, la dénonciation et le ciblage ne m'intéressent pas. Voilà. C'est pour ça que le livre essaye de montrer des processus et des paradoxes, des injonctions paradoxales.
Quelle société idéale pour vous aujourd'hui, Isabelle Barberis, en matière de liberté de création, d'expression?
Alors, la question des solutions est extrêmement importante. Je m'y attache beaucoup. Comme je vous disais, en ce moment, j'essaye de réfléchir. Les injonctions paradoxales ont été travaillées par les théories de la communication. Déjà, ce que montrent les théories de la c'est le « et en même temps » macronien. Hein, voilà. Ce que montrent les théories de la communication aussi en la matière, l'école de Palo Alto notamment, Bateson, c'est que ça rend fou et extrêmement agressif. Comment sortir de ce cadre d'agressivité? C'est une véritable question. Il me semble que ces théories de la communication proposent, pour ne pas devenir fou, de se défocaliser, de changer de sujet. Il me semble qu'il y a une sorte d'hystérisation de la question antiraciste. Et également propose très vivement la réactivation de la dérision. Donc j'y réfléchis beaucoup parce que je ne veux absolument pas participer à cette morbidité ambiante.
Et voilà, en ne répondant pas à l'offense par l'offense, ça serait peut-être le...
Oui, tout à fait, oui.
D'accord, merci beaucoup à vous Isabelle Barberis, l'art du politiquement correct. Votre ouvrage vient de paraître aux presses universitaires de France. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table à la réalisation aujourd'hui. C'était Marie Placet avec Emmanuel Morstincamp.